Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Mettre fin à la violence de l'extrême pauvreté, s'appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix, c'est le thème de cette édition d'Escale, mais aussi celui retenu pour la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, récemment célébrée au siège de l'ONU. Sans tarder, allons à la rencontre de Christina Diez, d'ATD Carmonde, l'organisateur principal de l'événement, pour mieux comprendre le sens de ce thème.
Ça veut dire que la situation dans laquelle des personnes en situation de pauvreté vivent crée des situations de violence et l'extrême pauvreté est une violence en elle-même. Et donc, si on veut en finir avec la pauvreté, il faut tenir compte de la partie qui est violence. Et si on veut construire la paix dans le monde, la paix, ce n'est pas seulement l'accent des conflits entre des pays ou entre des groupes. La paix, c'est aussi le respect des droits de l'homme.
Alors, cette thématique, elle est ancrée dans un rapport qui a été élaboré justement par ATD Carmonde. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce rapport et quelles ont été ses méthodologies ?
C'est le rapport qui s'appelle « L'extrême pauvreté, la misère et violence, rompre les silences, chercher la paix ». C'est une recherche participative faite pendant 3 ans dans plusieurs pays avec la participation de plus de 1000 personnes en situation de pauvreté. Et la méthodologie qu'on a utilisée, c'est le croisement des savoirs où des personnes en situation de pauvreté ont la possibilité de bâtir leurs compétences et leurs capacités pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir entrer en dialogue avec d'autres acteurs dans la société. Et donc, ce qu'on a fait, ils ont parlé de leur vie, de la violence, des conditions nécessaires pour rompre les silences et pour construire la paix dans leur communauté. Et ils se sont assis avec des décideurs politiques, avec des acteurs de terrain et avec des chercheurs universitaires pour arriver à des conclusions qui sont publiées dans ces rapports.
Alors justement, quelles sont les principales conclusions de ce rapport ? Qu'est-ce qu'on apprend ?
Et la première chose, c'est que la plus grande violence faite aux personnes en situation de pauvreté, c'est que l'on nie leur existence, que l'on nie leur dignité, que l'on viole ces droits de l'homme. Et aussi, il y a 2 autres dimensions à la violence. C'est la violence faite par les États et par les institutions quand ils punissent les stratégies de survie que les personnes ont pour s'en sortir. Quand des personnes en situation de pauvreté sont punies par les stratégies qu'elles utilisent pour survivre, ça crée des violences et on stigmatise et on culpabilise les personnes en situation de pauvreté. Et la façon d'arriver à construire la paix avec des personnes en situation d'extrême pauvreté passe par donner les possibilités pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent participer et contribuer à bâtir leur société. Et aussi, c'est des sociétés qui respectent les droits de l'homme pour tous.
Alors, le rapport mentionne aussi, et la journée, les personnes vivant dans l'extrême pauvreté comme premiers acteurs pour bâtir la paix. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que vous avez des exemples concrets ?
Ça veut dire que les personnes qui font résistance aux actes de violence et à la situation même de l'extrême pauvreté, qui est violence par elle-même parce que c'est un déni des droits, mais aussi un déni de la dignité humaine. Mais ces personnes sont les acteurs les plus dynamiques dans la résistance à ces situations, mais aussi dans la construction des liens et des luttes dans leur communauté. Et c'est ça, bâtir la paix pour eux. Ça veut dire, quand on ne laisse pas un enfant de nos voisins passer la journée sans manger, même si on en a très peu chez nous, ça c'est bâtir la paix. Quand on ne dénonce pas un papa qui a fait tort à la famille parce qu'on sait que c'est lui qui donne à manger à ses enfants et que ses enfants vont avoir faim, ça c'est bâtir la paix dans les concrets.
Autre thématique en fait qui est revenue pendant l'événement, c'est justement des témoignages où les gens ayant vécu ou vivant dans des situations de pauvreté demandent la participation et expriment cette frustration, cette pression de ne pas pouvoir s'exprimer, expliquer leur situation. Des fois, c'est presque une autocensure, on a l'impression. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y ait une telle stigmatisation et qu'il y ait cette tendance à se taire, justement, et à ne pas exprimer la situation dans laquelle on vit ?
Parce que ce n'est pas juste une situation. Quand on est méprisé tous les jours, quand on doit baisser la tête si on veut manger, quand on est humilié et quand on a peur, on ne parle pas. Parce que on a peur des conséquences de ce que l'on va dire. Et pour créer les conditions pour que des personnes en situation d'extrême pauvreté qui vivent la violence tous les jours puissent parler, il faut un engagement à côté d'eux de longue durée et il faut aussi bâtir la confiance. Il faut leur faire sentir qu'ils sont dans des endroits et des espaces où on ne va pas les punir parce qu'ils disent, parce qu'ils ont trop blessé ou parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. On va avoir la patience pour qu'ils arrivent à dire ce qu'ils ont à dire. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit de façon individuelle. Il faut que ça soit un mouvement collectif. Parce que c'est dans la collectivité, dans le, se sentir appartenir à un groupe et à une communauté qu'on trouve la force.
Vous parlez de groupe, vous parlez de solidarité. Comment est-ce que vous pensez que l'ONU peut se prêter à ce groupe que sont les personnes vivant dans l'extrême pauvreté?
Quand l'ONU se rassemble, quand je dis l'ONU, c'est des différents acteurs, les pays, le secrétariat, mais aussi la société civile et les mondes académiques, pour créer la connaissance nécessaire, pour élaborer des agendas pour le développement, pour la lutte contre la société, il y a toujours un acteur qui manque et une connaissance qui manque. C'est la connaissance des personnes les plus atteintes par la pauvreté. Et si l'ONU était capable de prendre sérieusement cette connaissance et de l'intégrer dans leur connaissance et de prendre sérieusement des personnes en situation de pauvreté en tant qu'acteur des connaissances, était capable de croiser cette connaissance avec la connaissance du monde académique et la connaissance qui vient des pays, des diplomates, on arriverait à avoir des agendas qui ne font pas violence aux personnes en situation de pauvreté et qui attendent les plus vulnérables.
Lutter contre la pauvreté, donner la voix aux personnes vivant dans la pauvreté et être à leur écoute, ce doit donc être l'affaire de tous. De la communauté internationale, du monde académique, des personnes qui vivent dans la misère et bien sûr des gouvernements. À l'instar du Burkina Faso qui non seulement co-parraine cet événement à l'ONU chaque année, mais mène aussi des actions sur son propre territoire. Le représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, Der Kogda, en donne quelques exemples.
Au Burkina, il y a toute une gamme d'actions qui sont menées. En dehors des actions que Atitikalman mène au Burkina Faso, en direction des enfants défavorisés de la rue, nous avons beaucoup d'autres actions qui sont prises. On a des maisons de rééducation des jeunes, on a des maisons de formation des jeunes, des œuvrés, pour les enlever d'une situation de pauvreté ou une situation de démunis. Et éviter qu'on arrive à des situations que nous connaissons dans certains pays où nous avons des enfants qui se contentent de ce qu'il y a dans la rue, se termine par la formation de gangs ou par la drogue. Donc il y a des associations, des ONG qui travaillent dans ce sens. Il y a même des ONG qui ont comme activité de convaincre les enfants à quitter la rue et de leur proposer des activités professionnelles, des activités d'apprentissage.
Alors parmi les témoignages qu'on a pu écouter pendant l'événement aujourd'hui, souvent les gens vivant dans l'extrême pauvreté, la pauvreté, parlent d'exclusion, de se sentir stigmatisé. Est-ce que c'est le cas au Burkina et est-ce qu'il y a des programmes de sensibilisation qui justement œuvrent à contrecarrer ce genre de stigmatisation ou de préjugés?
Au Burkina, comme dans beaucoup de pays africains, nous avons la grande famille, comme on dit, qui arrive un peu à amoindrir cette situation d'extrême pauvreté qui peuvent exclure certaines personnes. Donc nous, Africains, on a ce qu'on appelle la parenté et on essaie quand même de nous entraider. Mais ça ne suffit pas. Les ressources sont insuffisantes à tous les niveaux, qui fait qu'on a des situations où certaines personnes sont plus ou moins marginalisées du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, n'ont pas suffisamment de ressources, mais il y a des mesures qui sont prises tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la société civile, des ONG, pour essayer tant bien que mal de partager la solidarité pour que tout le monde puisse quand même avoir le minimum vital pour vivre. Nous savons que ce n'est pas facile économiquement, au Burkina aussi ce n'est pas facile, et compte tenu de certains aléas climatiques qui font qu'il y a souvent certaines difficultés, mais il y a des actions qui sont menées.
Vous parlez de la grande famille. Comment est-ce qu'on articule justement les enfants de la rue et cette grande famille?
Oui, l'articulation, elle est simple. L'enfant, avant de se retrouver dans la rue, se trouve dans une famille. Et il faut savoir pourquoi il est dans la rue. Et lorsqu'on a la réponse à cette cause, on peut tenter de le réinsérer. Et si c'est une question de problème au niveau de la famille, il faut tenter de ramener l'enfant vers la famille et voir dans quelle mesure on peut dialoguer avec les membres de la famille, trouver la cause et essayer de réinsérer. Bon, si c'est une question de déperdition ou bien bon, des enfants souvent qui quittent la campagne, qui viennent en ville, là également on essaye de voir dans quelle mesure il faut leur mettre dans des positions leur permettant de se prendre en charge au lieu de rester dans des situations qui les amènent justement à rester dans la rue et à végéter dans la pauvreté.
Autre témoignage, celui de Philippe Savadego, le représentant permanent de la francophonie, lui aussi burkinabé, qui a pu témoigner de son expérience dans son pays et sur les efforts de l'OIF.
Le festival du film de Ouaga, qui est né depuis 1969, se passe dans la ville de Ouagadougou tous les 2 ans et prend une dizaine de jours. Naturellement, les enfants de la rue constituent souvent des préoccupations lorsqu'on a des activités dans beaucoup de pays. Et l'initiative prise par notre pays et le festival, c'était de les intégrer à la vie même du festival du film. C'est ainsi qu'ils ont accompagné les festivaliers, ils ont quelquefois aidé, par exemple, à participer à des jurys de films pour enfants à l'intérieur du festival et même aider à débroussailler, par exemple, certaines places de la ville avec une organisation encadrée par ATD Carmon. C'est donc un exemple d'occupation qui permet justement d'avoir des activités rémunérées pour les jeunes et de les impliquer à la vie active d'une ville.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette initiative? Qu'en est-il aujourd'hui de cette initiative?
Naturellement, c'est une initiative qui date d'une quinzaine d'années, mais au Burkina, l'association ATD Car Monde y est installée depuis plusieurs années maintenant et ont des programmes qui permettent aux enfants de pouvoir faire la transition vers la vie adulte.
Alors, les pays de la francophonie, dans la déclaration de Kinshasa, se sont engagés à lutter contre la pauvreté. Comment ?
Eh bien, d'abord, la solidarité. Vous savez que la communauté francophone a des programmes pour jeunes, mais aussi pour les femmes, afin justement de permettre que chaque fois qu'on a la possibilité, grâce à des institutions et à des mécanismes pour venir en aide à la jeunesse, que nous puissions le faire dans un cadre orthonormé. Et le cadre stratégique décennal de la francophonie prend en compte justement l'employabilité des femmes, mais aussi les jeunes et aussi la mobilité jeunesse, afin que les enfants puissent apprendre et aller voir ce qui se passe ailleurs.
Et ça pourrait déboucher sur quoi, par exemple, concrètement?
Ça pourrait déboucher d'abord sur une expérience. Il y a, par exemple, le programme des cybercafés qui sont installés dans des villes de la communauté francophone pour permettre aux jeunes de venir là, de pouvoir lire, de pouvoir se connecter. Il y a, par exemple, cas précis d'un centre d'action culturelle dans un village africain. Cela permettait que les jeunes filles de 14 à 15 ans puissent aller dans ces bibliothèques-là, lire et écrire en lieu et place de faire soit des travaux ménagers ou des activités qui ne sont pas de leur âge. Donc, vous savez, c'est un processus. C'est un domaine où il faut toujours s'accommoder de la situation réelle et aider.
L'éradication de la pauvreté est clairement l'une des priorités de la communauté internationale. Depuis 25 ans, une journée internationale y est consacrée. Il existe des principes directeurs et des outils différenciés pour aider les États à mener à bien leurs efforts. Une taxe sur les transactions financières devrait bientôt être mise en place pour y contribuer. Aussi, c'est le premier des objectifs du millénaire pour le développement. Selon une estimation du PNUD, le pourcentage de personnes vivant dans le monde avec moins d'$1,25 par jour en 2010 a baissé plus que de moitié par rapport à 1990, et ce, malgré les hausses des prix des carburants et des denrées alimentaires. Reste à espérer que ces estimations se concrétiseront et que ce fléau, qui affecte toujours des millions de personnes, finira par être éradiqué. Et c'est ainsi que se referme cette escale consacrée cette semaine à la lutte contre la pauvreté et au plaidoyer pour l'autonomisation des personnes vivant dans la misère. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.